Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Installez-vous confortablement pour partager a cup of tea avec Janine Rogers. À la technique, Simon Martin. Si je vous dis qu'aujourd'hui nous allons parler d'Elizabeth Taylor, les mots qui vous viendront à l'esprit seront sans doute cinéma, Cléopâtre, Richard Burton. Et vous vous demanderez quelle place elle peut bien occuper parmi les romancières britanniques. Mais sachez qu'il existe une autre Elizabeth Taylor, romancière anglaise, née en 1912 à Reading et décédée en 1975. Elle étudia à l'école religieuse de sa ville natale, puis devint préceptrice et bibliothécaire. En 1936, elle épousa John Taylor, homme d'affaires issu de la haute bourgeoisie, alors qu'elle, elle était inscrite au Parti communiste, puis au Labour Party. Ils eurent deux enfants et elle vécut la vie d'une femme au foyer. Elle avait horreur de la publicité et tenait à ce qu'on respecte sa vie privée. Son premier roman, Chez Madame Lippincott, paru en 1945, après avoir été refusé par de nombreux éditeurs. Puis en 30 ans, elle écrivit 11 romans et 5 recueils de nouvelles. Elle fut influencée entre autres par Virginia Woolf et Ivy Compton Burnett, dont nous avons parlé lors de précédentes émissions. Ces personnages sont presque tous issus de la classe moyenne. Certains critiques lui reprochèrent de ne savoir écrire que des romans de femmes. Peut-être parce qu'elle place ses personnages dans la vie quotidienne, parce qu'elle fait d'eux une fine analyse psychologique. En tout cas, elle n'eut longtemps qu'un succès d'estime, alors que tous ses romans ont été traduits en français et sont parus dans les collections poche. Car ses romans ne sont en aucun cas des histoires à l'eau de rose. Elle avait en elle une violence et une rébellion qu'elle domina par l'écriture. André Rollin écrivit dans Le Canard enchaîné, je cite, « Elizabeth Taylor sait que le soleil de l'été n'est qu'un leurre, que ses rayons peuvent être des poignards. Elle déchire en douceur, elle griffe, elle utilise le pastel, mais un pastel empoisonné. » Et Diane de Margerie, dans la préface à son roman paru en 1957, Angel, écrit, je cite, « Cela est conté d'une façon si romanesque que nous sommes surpris, pris par une sorte de tourbillon circulaire et dramatique. L'extravagant enfant qui en est l'héroïne, Angel, est tout sauf angélique. Elle nous apparaît tout de suite rétive, méprisant l'épicerie où travaille sa mère, absente de la vie quotidienne, volontairement aveugle au réel. » Et le cinéaste François Ozon, qui a adapté le roman pour le cinéma, dira en 2007 « Le personnage d'Angel est souvent grotesque, elle a un côté insupportable et une certaine forme de méchanceté. » Parmi ses romans, citons aussi « Vue sur le pont » qui est le quotidien de gens vivant dans une communauté portuaire où les habitants de la vieille ville s'opposent à la ville nouvelle. Il serait fastidieux de faire une liste des écrits d'Elizabeth Taylor. Je vais plutôt vous parler de son dernier roman « Mrs. Palfrey, Hôtel Clarmont » que je trouve parfaitement abouti. Elle y dresse avec un mélange de réalisme, d'humour et de tendresse les portraits physiques et psychologiques des résidents d'une maison de retraite londonienne où Mrs. Palfrey vient d'arriver. En voici quelques extraits. Donc, elle arrive sous la pluie dans sa pension où elle ne connaît personne. Elle prend possession de sa chambre lentement et descend dîner. Je cite. Sa table se trouvait dans un angle de la salle à manger. Elle était décorée d'un unique chrysanthème blanc et de branches de verdure fluette dans un vase argenté. Aux autres tables étaient installées quelques vieilles dames qui, aux yeux de Mrs. Palfrey, y semblaient assises depuis des années. Elles attendaient patiemment le potage au céleri, mains croisées sur les cuisses, yeux rêveurs. Après le dîner, on passe au salon et, je cite, « Mrs. Palfrey n'ignorait pas que, dans un hôtel de ce genre, chaque personne dispose d'un fauteuil attitré. Sachant comme d'habitude comment se comporter, elle s'assit pour cette première soirée dans un endroit assez sombre, près de la porte et dans un courant d'air, s'enveloppa les épaules de son étole, puis ouvrit son Agatha Christie. À 9h, c'est l'heure du feuilleton à la télévision, la salle se vide. Le lendemain, elle se demande ce qu'elle va faire, elle prend son petit déjeuner et, je cite, « tandis qu'elle attendait ses pruneaux, Mrs. Palfrey réfléchit à la journée qui s'annonçait. La matinée serait agréablement remplie, mais l'après-midi et la soirée risquaient d'être longues. « Ne te laisse pas aller, » se dit-elle. Elle savait bien qu'elle avait tendance, en vieillissant, à consulter très fréquemment sa montre. Il était toujours plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Dans sa jeunesse, il était trop tard. Et puis un jour, sa vie va prendre un tour différent. Elle se promène seule dans Londres, et là je cite, « Brusquement, elle ne parvint pas à se souvenir plus tard de quelle façon elle s'était peut-être tordue la cheville, ou alors elle avait glissé sur le trottoir graisseux. Elle trébucha, tenta de se relever et s'effondra avec les craquements écœurants qui accompagnent la chute d'une personne âgée. Au début, elle n'éprouva que de la honte. Elle lutta pour se remettre sur pied, retrouver sa dignité. Même si la rue étant déserte à cette heure, aucun passant ne la voyait gisant sur le sol. Elle se sentit secouée, le souffle court et eut peur. Chaque battement de son cœur menaçait d'être le dernier. Elle se traîna jusqu'à la grille bordant la courette et s'y appuya, s'efforçant de retrouver son calme. « Je ne réussirai jamais à rentrer, » songea-t-elle, et les larmes menacèrent à sa surprise horrifiée. Elle eut à peine conscience qu'une porte s'ouvrait dans la courette en contrebas, protégée par une grille. Un flot de lumière jaillit sur les pavés mouillés, illuminant des fougères et une poubelle, et un jeune homme monta les marches en courant. Il la prit dans ses bras et la garda contre lui, sans un mot, comme l'aurait fait un amant, et un consentement merveilleux se mêla à sa douleur, tandis qu'elle s'en remettait à lui avec une gratitude sincère. Elle sentit du sang couler lentement sur sa jambe, mais n'osa pas regarder. Quelques instants plus tard, le jeune homme l'adossa aux grilles et entreprit de ramasser son sac à main. Le livre de bibliothèque et sa canne à embout caoutchouté. Ensuite, il passa son bras autour de ses épaules. Elle était plus grande que lui et l'aida à descendre prudemment l'escalier. Elle le suivit sans protester parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire et qu'elle était contente de n'être plus exposée au regard, adossée aux grilles, dans un tel désordre, une telle confusion. S'il lui donnait un verre d'eau, elle prendrait une de ses pilules dans son sac, se ressaisirait et établirait un plan d'action. « Je suis navrée, » souffla-t-elle une fois assise dans la pièce. Ses lèvres, son visage tout entier lui semblaient engourdis, exsangues. « Pour l'instant, j'éviterai de parler à votre place, » dit-il. Il s'éloigna, puis revint avec une tasse remplie d'eau. Et elle eut l'impression que les mots étaient superflus. Elle lui désigna son sac et il l'apporta, l'ouvrit, le lui tendit, s'agenouillant devant elle. Ensuite, voyant son bas déchiré et le sang sur sa jambe, il quitta de nouveau la pièce et revint avec un bol d'eau chaude et une serviette sale. Elle fut assez choquée à la vue de la serviette. Mais ce choc se produisait trop tôt après celui qu'elle venait de subir pour avoir une grande importance, et elle se laissa faire. Elle était totalement entre ses mains, heureuse de s'abandonner. Elle ne ressentit aucune gêne lorsqu'il fit rouler l'élastique de la jambe de sa culotte sur sa jarretière et détacha son bas. Avec une extrême délicatesse, il lui tamponna le genou à petits coups de serviette. Elle ne ressentait aucune douleur. Sa jambe ne semblait plus lui appartenir. Il prit un mouchoir dans un tiroir et le lui noua autour du genou. Releva et fixa le bas déchiré, s'assit sur ses talons, la regarda et sourit. « Je peux vous préparer une tasse de thé, » dit-il. « Je ne voudrais pas vous déranger davantage. » Il parut méditer sur le sens de cette phrase, puis déclara « Ça ne me dérangerait pas beaucoup. Vous avez été tellement gentil. « C'est cela, je vais faire du thé, » déclara-t-il, sa décision prise. « Je m'appelle Ludo, à propos Ludovic Myers. Ce n'est pas rien, n'est-ce pas ?»« Et moi, Palfrey, Laura Palfrey, » répondit-elle en se sentant beaucoup mieux. « Dans ce cas, nous avons tous deux des noms ridicules, » dit-il en se levant pour aller remplir la bouilloire. Elle n'avait jamais de toute sa vie trouvé que Laura Palfrey était un nom ridicule, mais elle ne se mit pas en colère. Cela la fit même sourire. « Vous habitez loin ?» demanda-t-il. « L'hôtel Clermont dans Cromwell Road. Vous connaissez ?»«
Non, il paraissait amusé à l'idée de connaître l'hôtel Clermont. « Je peux vous appeler un taxi si vous voulez, » ajouta-t-il. « Ça ne devrait pas être très cher d'ici. »
« Je vous en serai tellement reconnaissante, » dit-elle, épuisée. Elle put enfin regarder ce qui l'entourait. Une table en bois blanc couverte de livres, un chauffage à gaz réglé au minimum, un costume sombre suspendu au dos d'une porte. Les rideaux ne se rejoignaient pas totalement sur la fenêtre et étaient maintenus bord à bord avec deux grosses épingles à nourrice.
« Un coup de chance que je sois là, » murmura le jeune homme. « Je viens juste de rentrer de mon travail. J'étais en train de tirer les rideaux. «
Où travaillez-vous ?» demanda-t-elle en faisant un effort pour maintenir la conversation.
« Chez Harrods. »
L'histoire de ces deux-là va se dérouler en parallèle et ce jeune homme, ce Ludo, va remplacer peu à peu son petit-fils Desmond qui devrait venir lui rendre visite, mais dont la visite se fait attendre. Je voudrais pouvoir vous lire d'autres extraits de ce livre, amusant, tendre, mais je dois m'arrêter là et je vous laisse le plaisir de la découverte de ce roman dont l'intérêt ne faiblit jamais.